Chapitre 10. Binos avait suivi le conseil à lui donné par Freneuse au moment où ils s'étaient séparés à la porte de la maison du père Lorenzo. Pendant que son ami et le notaire Drujon se mettaient en chasse de leur côté, il était allé tout droit à l'estaminet du Gros Bac, où il espérait rencontrer enfin Pied-Douche, et il comptait bien, grâce à cet habile auxiliaire, arriver bon premier dans la course aux renseignements organisée par les défenseurs de Pilla. Il s'agissait avant tout de la retrouver et de la délivrer si, comme tout l'indiquait, elle était tombée aux mains de l'ennemi. La poursuite des meurtriers de sa sœur ne venait plus qu'en seconde ligne. Mais Binos avait une très haute idée des talents de Pied-Douche. Il le croyait propre à tout et il lui tardait de le lancer sur la piste de Pilla disparue. Pied-Douche, qui en moins d'une heure avait su découvrir le domicile de Bianca, saurait bien découvrir l'endroit où l'on retenait sa sœur. Binos d'ailleurs avait une foule de choses à demander à ce précieux camarade, car il ne l'avait pas revu depuis leur excursion à la rue des Abbesses et il ne savait même pas si le chimiste qui devait examiner l'épingle avait terminé ses expériences. Il arriva donc, tout courant et plein d'illusions, au Grand Boc, où il ne trouva que le patron mélancoliquement assis dans son comptoir. Il l'interrogea et il apprit que Pied-Douche ne se montrait plus dans l'établissement. Le père Poivreau, qui était comme toujours entre deux absinthes, ne demandait qu'à épancher ses chagrins, et il raconta au rapin ébahi que depuis quelques jours, sa clientèle s'était évanouie. Le billard chômait, le café restait vide, le droguiste retiré Pigache, le plus fidèle de ses habitués, ne venait plus. Et Poivreau attribuait cette déversion à un certain bruit qui s'était répandu parmi les consommateurs. On disait tout bas qu'un agent de la sûreté fréquentait l'estaminet et ces messieurs, qui n'aimaient pas la police, étaient allés boire et jouer ailleurs. Cet agent, personne n'aurait pu le signaler, mais on affirmait qu'il venait tous les jours et qu'il s'arrangeait d'une façon à ne pas être pris pour ce qu'il était. D'où il était résulté qu'on soupçonnait tout le monde, et particulièrement les bourgeois paisibles qui ne frayaient point avec les donjons de barrières auxquels le Grand Boc servait de lieu de rendez-vous. On soupçonnait le marbrier, on soupçonnait le droguiste, on soupçonnait Pied-Douche, et le patron pensait que ces braves gens, ayant eu vent des propos qui couraient, restaient chez eux de peur d'être insultés par les inventeurs de cette calomnie. De sorte que l'infortuné Poivreau, abandonné par toutes ses pratiques, n'avait plus que la ruine en perspective. « Quand je pense que vous accusez vous aussi, s'écriait-il en frappant du poing, ah, si je connaissais le gredin qui inventait ces histoires-là pour me faire du tort, j'aurais du plaisir à l'assommer. » Binos ne s'était pas beaucoup ému des confidences du cabaretier. Les propos qu'on avait pu tenir sur lui le touchaient peu, et les malheurs de Poivreau le touchaient moins encore. Mais il pensait que les habitués ne se trompaient pas, car il avait toujours été convaincu que Pied-Douche appartenait ou avait appartenu jadis à la police. Et le côté fâcheux de l'affaire, c'était que probablement Pied-Douche, averti de ce qu'on disait, ne reviendrait plus. Où le trouver maintenant? Binos regrettait amèrement de ne pas avoir insisté pour savoir où il demeurait et ne voyait plus d'autre moyen de se procurer son adresse que d'aller la demander à la préfecture. Encore, doutait-il, qu'on voulut bien la lui donner. Comme il n'y avait plus rien à tirer du patron de l'estaminet, il s'en alla après l'avoir prié de dire à Pied-Douche, si par hasard il se présentait, que son ami Binos désirait le voir le plus tôt possible et l'attendrait tous les matins rue Mira au 5e au-dessus de l'entresol. À vrai dire, il ne comptait pas trop sur sa visite, et il pensa que, pour le moment, le mieux serait d'aller tout bonnement chez Sophie Cornu, de lui raconter la disparition de Pia et de tâcher d'obtenir d'elle quelques indications utiles. Il suivait, tout pensif, le boulevard Rochechouart. Il avait déjà dépassé l'Élysée-Montmartre lorsqu'il aperçut, assis sur un banc et causant avec deux individus d'assez mauvaise mine, l'ancien droguiste Pigache, dont le pauvre Poirot déplorait l'absence. L'idée lui vint aussi de l'aborder pour lui demander s'il ne pourrait pas lui donner des nouvelles de Piedouche. Pigache tournait le dos à Binos et ne le voyait pas venir. Mais Binos l'avait reconnu de loin, à sa tournure et surtout à un grand chapeau tromblon que le bonhomme pas été seul à porter dans ce quartier où la coiffure la plus répandue est la casquette de soie. « Mais avec qui diable cause-t-il là ?» se demanda le rapin en examinant les deux hommes arrêtés devant le ci-devant groguiste. Pour un ancien négociant, il a de bien vilaines connaissances. Ces gens, en effet, étaient assez mal vêtus, et ils avaient sans doute conscience de leur infériorité sociale, car ils se tenaient debout et Pigache, assis sur le banc municipal, avait l'air de leur donner des ordres. Binos, qui ne s'intimidait pas pour si peu, s'avança sans s'inquiéter de savoir s'il n'allait pas déranger le bonhomme en interrompant la conversation. Et il ne tarda guère à remarquer que les deux individus qui lui faisaient face observaient ses mouvements. Ils avertirent sans doute le père Pigache qu'un monsieur s'approchait, car ce respectable vieillard tourna la tête et reconnut aussitôt Binos, qu'il favorisa d'un sourire engageant. Immédiatement, les deux causeurs saluèrent et s'acheminèrent à pas lents vers la place Pigalle. « Bon, pensa le rapin, maintenant que le vieux est seul, je vais lui demander s'il n'a pas vu Piedouche. Il faudra crier à tue-tête, mais ça m'est égal. Il ne passe personne sur le boulevard, et d'ailleurs je n'ai pas de secret à lui confier. » « Bonjour, cher monsieur Binos, lui dit le droguiste en retraite. Il y a un siècle que je ne vous ai vu et je suis bien content de vous rencontrer. Moi aussi, papa, je suis content car vous ne venez plus au Grand Boc, justement, et j'ai à vous parler, » riposta Binos en forçant sa voix tant qu'il put. « Oh, ça, dit donc l'ancien, pourquoi avez-vous lâché le père Poivreau ? Je sors de son caboulot et je l'ai trouvé en tête à tête avec une bouteille d'absinthe. Il est en train de la vider pour se consoler de vous avoir perdu. Oh mon Dieu, je vais vous dire, Poivreau n'est pas un mauvais homme, mais il reçoit du vilain monde. Et entre nous, la société qu'on trouve chez lui ne me convient pas. J'y allais à cause de vous et à cause de M. Piedouche, mais depuis quelques jours il a déserté l'établissement et j'ai dans l'idée que vous ne tarderez pas à en faire autant. Moi, ça dépendra. Et quant à l'ami Piedouche, je le cherche partout pour l'y ramener et je ne peux pas remettre la main sur lui. Vraiment, vous ne savez donc pas où il demeure ? Non, et vous ? Pas davantage, et c'est pas étonnant. Je l'ai jamais fréquenté qu'à l'estaminet, et encore, il ne causait pas souvent avec moi, parce que, vous comprenez, c'est pas amusant de causer avec un sourd. À qui le dis-tu, animal, grommela Binos. Il paraît que vous êtes du même avis que lui, dit Pigache avec un bon gros rire. « Ben vous voyez bien que non, puisque je m'arrête tout exprès pour vous faire la conversation, » cria le rapin. « Ah, c'est bien aimable à vous, mais ça ne vous amuse pas, puisque vous m'appelez animal. »« Comment ? Vous avez entendu? Oui, ça vous surprend parce que vous n'avez jamais vécu avec des sourds. Non, Dieu merci. Si vous aviez vécu avec eux, vous sauriez qu'en plein air, ils n'ont pas l'oreille si dure qu'entre quatre murs et qu'en voiture, ils entendent tout. Ah bon, alors, la première fois que j'aurai quelque chose à vous dire, je mènerai un fiacre et nous nous promènerons dedans. Seulement, vous paierez les heures. Oh, très volontiers. Mais en attendant, nous pouvons toujours parler un peu ici. Je suis dans un de mes beaux jours, parce que le temps est sec et vous n'aurez pas besoin de vous dégosiller. Ça me va, car je tiens pas à émeuter les passants. Je vous demandais si vous ne pourriez pas me donner des nouvelles de Pied-Douche. Vous ne connaissez pas son adresse, mais vous l'avez peut-être rencontré. Non ? Malheureusement, car je l'aime beaucoup, ce garçon-là, quoi qu'il me cherche guère. Et si je l'avais aperçu dans la rue, je vous jure que je l'aurais arrêté. Mais c'est dans l'idée qu'il habite pas ce quartier-ci. Mais il était toujours fourré au Grand Boc. Il doit pas percher loin, et pour savoir où, je donnerais un pipe la mieux culottée. Oh, vous avez donc bien besoin de lui? Parions que je devine pourquoi. Ah, je vous en défie, papa. Parbleu, c'est pas malin, et vous voulez qu'il vous rende l'épingle dorée que vous lui avez prêtée l'autre jour chez le père Poivreau? L'épingle? Mais comment vous avez remarqué? Ah, les sourds remarquent tout. Dame, ça se comprend. Ils n'ont pas de distraction puisqu'ils n'entendent rien. Alors, vous n'avez pas entendu ce que je lui disais? Oh, pour ça, non. La salle où nous étions est très basse, le plafond. Vous savez, il nous faut le plein vent, hein, nous autres, pour que nos oreilles s'ouvrent. Mais quelquefois, nous devinons à peu près au geste, au mouvement des lèvres, à l'expression de la physionomie. Et avez-vous deviné l'autre jour de quoi il était question entre Pied-Douche et moi? Vous étiez bien placé pour vous examiner puisque nous étions assis à votre table. Oh, je ne réponds pas que j'ai deviné. Je me suis fait une idée, mais j'ai bien pu me tromper. Je me suis figuré que vous lui racontiez qu'on avait tué ou blessé quelqu'un avec l'épingle et qui vous promettait de la faire examiner pour savoir si elle n'était pas empoisonnée. Vous avez trouvé ça? Oh, par exemple, c'est fort! Mais non, c'est tout simple au contraire. J'ai voulu y toucher et vous m'avez arrêté le bras. Je pensais tout de suite que vous craigniez un accident. Tenez, c'est comme la lettre déchirée que vous lui avez montrée. Eh bien, j'ai supposé que vous l'aviez trouvée en même temps que l'épingle. Ma parole d'honneur, père Pigache, je commence à croire que vous êtes sorcier. Et moi qui vous prenais pour un naïf. Dites donc pour un imbécile, ça rendra mieux votre pensée. « Ma foi, c'est possible, » répliqua cyniquement Minos. « Mais je proclame que j'avais tort. Un homme qui comprend sans entendre est capable de tout. »« Vous êtes bien bon. » »« Alors, c'était donc vrai. On s'est servi de l'épingle pour commettre un crime paumé. »« On a assassiné une jeune fille dans un omnibus. » Ah, dans l'omnibus de la place Pigalle, peut-être. J'ai lu quelque chose comme ça sur le petit journal. Justement, mon vieux. Et depuis ce jour-là, mon ami Fromeneuse et moi, nous cherchons la coquine qui a fait le coup et le brigand qui l'a aidé. Fromeneuse était dans la voiture. Il les a vus, malheureusement. Il a cru à un accident et il ne s'est plus occupé d'eux. Et moi qui m'en occupais, je m'en suis rapporté à pied et douche, si bien que nous en sommes toujours au même point. Et pendant ce temps-là, les scélérats continuent leurs opérations. Ils viennent d'enlever la sœur de la pauvre fille qu'ils ont tuée, et si on ne réussit pas à les empoigner, ils vont lui faire un mauvais parti. Eh, pourquoi ? Qu'est-ce qu'ils ont donc contre ces enfants-là ? Ce serait trop long à vous expliquer, ça ne vous intéresserait pas. Il y a une histoire d'héritage, un bourgeois qui était le père naturel des deux petites et qui leur a laissé sa fortune en mourant. Et alors les parents de ce bourgeois ont payé des schnappants pour les en débarrasser. Oh, c'est possible, quoique... Non, le défunt n'a qu'un frère, un... Monsieur Paulet, qui est très riche et qui ne se serait pas fourré dans une affaire pareille. Oh, c'est pas. L'argent fait faire tant de choses. Vous dites qu'il s'appelle Paulet. À votre place, moi, je chercherais de ce côté-là. Vous devez avoir son adresse. Mais non, mais Freneuse-là, Freneuse le connaît beaucoup. Et vous me rappelez une chose qu'il m'a dite ce matin devant moi. Il paraît que M. Paulet a employé autrefois un agent d'affaires qui pourrait bien être le complice de la femme à l'épingle. Freneuse a vu cet homme dans un théâtre le lendemain ou le surlendemain du crime et il l'a reconnu pour avoir voyagé avec lui dans l'omnibus. Mais il ne sait pas son nom. Ben, il a qu'à le demander à M. Paulet. Ben, c'est ce qu'il doit faire aujourd'hui, mais tout à l'heure, quand je vous ai aperçu, je m'en allais rue des Abbesses, voir une femme qui a logé la morte. Et je comptais passer ensuite jusque chez Freneuse pour savoir où nous en sommes. Voulez-vous que nous y allions ensemble ? « Comment, père Pigache, vous pensez à vous mêler de ça ? Voilà du nouveau, par exemple. Je conçois que ça vous amuse, mais je me demande à quoi vous pourriez nous servir. »« Vous venez de dire que j'étais capable de tout, » répondit le bonhomme en souriant. « Eh bien, essayez. Mettez-moi à l'épreuve. Vous verrez que les sourds ont du bon. » D'abord, on se défie pas d'eux. Et puis, que risquez-vous ? Il s'agit que de m'indiquer le domicile de cet agent d'affaires. J'irai lui pousser une visite. Et quand j'aurai causé avec lui, je vous apprendrai peut-être quelque chose de nouveau. Ma foi, s'écria Binos, je vois pas pourquoi je me servirai pas de vous. Quand ce ne serait que pour la singularité du fait. Freneuse va encore se moquer de moi, mais ça m'est égal. D'ailleurs, j'ai bien le droit de chercher de mon côté pendant qu'il cherche du sien, et vous serez toujours aussi malin que le notaire qui cherche avec lui. Ah ! Il y a un notaire ? Oui, un notaire de province qui a reçu le testament du père des deux petites. Oh, celui-là, c'est un brave homme. Sans lui, nous n'aurions jamais su que la dernière héritait, et depuis qu'il sait qu'elle a disparu, il ne pense qu'à la retrouver. Tenez, il est peut-être en ce moment chez M. Paulet pour lui demander l'adresse de cet agent d'affaires. Très bien, mais M. Paulet voudra-t-il la lui donner ? Et vous croyez que s'il la lui refuse, il vous la donnera à vous ? Ah, peut-être, dans tous les cas, il n'en coûte rien d'essayer. Non, je suis curieux de voir comment vous vous y prendrez. Je ne sais pas au juste où demeure le bourgeois, mais Freneuse vous le dira. La place Pigalle n'est pas loin. Allons-y, papa. Pigache était déjà debout. Il s'était levé avec une vivacité juvénile. Et Binos n'en revenait pas du changement qui s'était opéré en un clin d'œil dans les allures du droguiste retraité et même dans sa personne. Sa taille voûtée s'était redressée tout à coup. Sa figure avait pris une expression intelligente. Ses petits yeux brillaient. Ce n'était plus le même homme. Bigache, mon ami, vous êtes méconnaissable, s'écria Binos. Si ce cher Piédouche vous rencontrait, il vous prendrait pour un autre. Et moi, je n'aurais jamais cru, si je ne le voyais pas, que le grand air changeait les sourds à ce point-là. Vous en verrez bien d'autres, dit le bonhomme en souriant doucement. Mais perdons pas de temps, monsieur Paulet demeure peut-être très loin, et qui sait où il nous enverra pour trouver son agent d'affaires. Il faudra que nous prenions une voiture, car... Tiens, vos amis vous suivent, interrompit le rapin en montrant du doigt les deux individus que son arrivée a mis en fuite. « Oh, vous inquiétez pas, mon cher. Les pauvres gens ont travaillé chez moi du temps que j'étais établi, et quand ils me rencontrent, ils viennent toujours me demander des nouvelles de ma santé. »« Et pourquoi se sont-ils sauvés quand ils m'ont vu ?»« Parce qu'ils sont pas bien habillés, ça les rend timides. »« Avec ça que je suis à la mode, moi, et enfin... » Il paraît qu'il me trouve l'air cossu. Ça me flatte. Ces propos et quelques autres non moins insignifiants égayèrent le trajet jusqu'à la place Pigalle. Le père Pigage, de plus en plus ingambe, marchait si vite que Binos avait de la peine à le suivre. Au moment où ils arrivèrent devant la maison du peintre, un fiacre s'arrêtait à la porte. Et deux messieurs descendirent. Bon, s'écria Binos, voilà justement Freneuse et le notaire. Diable, ils ont des figures à l'envers. Qu'est-ce qui leur est donc arrivé, pourvu qu'il n'ait pas appris que Pia ait déjà été expédiée comme sa sœur? Demandez à votre ami ce qui se passe, dit Pigache. « Pendant que vous causerez avec lui, moi je vais causer avec le notaire. » Ainsi fut fait. Binos tira Freneuse à l'écart et le bonhomme aborda, le chapeau à la main, maître Drujon, qui ne parut pas trop surpris de le voir. On eût dit qu'il le connaissait. « Eh bien, commença le rapin, as-tu l'adresse ?» « Non, répondit Freneuse avec humeur, Monsieur Paulet prétend qu'il ne se la rappelle pas. Nous n'avons plus qu'un moyen, c'est d'aller trouver cette logeuse de la rue des Abbesses. Elle connaît la femme de l'omnibus, puisqu'elle lui a parlé au cimetière. Il faudra bien qu'elle nous dise où elle demeure. Qu'as-tu fait de ton côté? Rien, n'est-ce pas? Ton homme de l'estaminet s'est moqué de toi. » « Je ne l'ai pas vu, mais j'ai recruté un auxiliaire intelligent. »« Ce petit vieux qui parle à Monsieur Drujon ?»« Ouais, il n'a pas l'air malin, mais je crois qu'il l'est tout de même. » Freneuse allait se récrier, mais ses yeux tombèrent sur une grosse femme qui venait à lui en se balançant sur ses hanches comme un navire ballotté par les vagues. « Mais il me semble que je ne me trompe pas, murmura-t-il. C'est la marchande d'orange, celle qui était dans l'omnibus et que j'ai rencontrée l'autre soir devant la porte Saint-Martin. « Vous ne me remettez pas à ce qu'il paraît, dit la commère. Dame, ça se comprend. Aujourd'hui, je vends pas d'orange. » Moi, je vous ai reconnu tout de suite, et si je me permets de vous parler, c'est que maintenant je sais où demeurait la petite de l'omnibus. Moi aussi, je le sais. Rue des Abbesses, hein, chez Sophie Cornu. Alors, je vous apprends rien, mais c'est pas tout. Figurez-vous que j'ai retrouvé la femme qui était dans la voiture à côté de la petite, vous savez, celle qui est sortie du théâtre en même temps que vous, et qui donnait le bras à l'homme de l'impérial. Et vous ne devineriez jamais ce qu'elle fait. cette gaillarde-là. Non, mais si vous pouviez me renseigner sur elle, vous me rendriez un grand service. Elle dit la bonne aventure, elle tire les cartes. Madame Stella, rue de la Sourdière, 79. La cornue est une de ses pratiques. Hier, je les ai rencontrées qui causaient, semble, sur le boulevard Rochechouart. Et comme je connais depuis longtemps cette brave Sophie, je l'ai abordée. L'autre, qui ne se rappelait pas ma figure, m'a proposé de me faire le grand jeu. Je lui ai demandé son adresse et elle me l'a donnée. Vous ne lui avez pas parlé de l'affaire de l'omnibus? Non, foi non. Il aurait fallu des explications à n'en plus finir, mais je lui ai promis d'aller la consulter. Voulez-vous que nous y allions ensemble? Demanda vivement Freneuse. Bon, si ça peut vous faire plaisir, moi je ne crois pas beaucoup à ces bêtises-là, mais ça m'amusera tout de même. Seulement, vous savez, je ne suis pas riche. Bon, je paierai la consultation. Alors, ça me va. Donnez-moi votre jour et votre heure. Ben, maintenant, et je vais vous y mener en voiture. Oh, ça va encore mieux, justement, j'ai rien à faire jusqu'à ce soir. Je vends ma marchandise qu'à la porte des théâtres. Eh bien, attendez-moi 5 minutes, le temps de dire un mot à ce monsieur là-bas. Celui qui a une cravate blanche et une bonne figure, il ressemble au juge de paix de mon pays. Mais l'autre marque mal. Toi, cause un peu avec madame pendant que je vais m'entendre avec monsieur de Rugeon, dit Freneuse en faisant signe à Binos, qui avait déjà saisi son intention. Alors comme ça, la mère, commença le rapin, pendant que son ami allait rejoindre le notaire qui avait entamé avec le père Pigache un colloque très animé, comme ça vous connaissez cette bonne Sophie? C'est pas malin, tout le monde la connaît dans le quartier. Faut vous dire que je reste au coin de la rue Muller. Et moi, rue Mira, nous sommes voisins, et quand vous aurez envie de faire tirer votre portrait... Vous êtes donc photographe? Jamais de la vie, je suis peintre, pas en bâtiment. Artiste, alors? J'aime mieux ça. Votre ami est aussi artiste, hein? Ah, artiste premier numéro, il gagne de l'argent gros comme vous, et c'est pas pour vous faire un compliment, mais vous vous portez rudement bien. Mais oui, pas mal, et vous? Dites donc, sans vous commander, pourquoi donc qu'il tient tant à consulter la sorcière, votre amie? Pour savoir de quelle maladie la petite de l'omnibus est morte. Tiens, c'est une drôle d'idée. Moi, je lui demanderai un remède pour guérir les douleurs de mon homme qui est dans son lit depuis un mois. Ah, là que votre camarade qui a fini de parler avec les deux vieux. Il vient vous chercher, la mère. Freneuse arriva, les yeux brillants, le visage animé. Binos était tout ébahi de cette transfiguration subite. Il a l'air aussi content que s'il avait retrouvé Pia, pensait-il. Ma bonne dame, dit Freneuse, ces messieurs-là vous demandent. Ils sont bien honnêtes, quoi qu'ils me veulent donc. Une information dont ils ont besoin, ils vont vous expliquer leur affaire. Bon, on y va! S'écria la grosse femme. Et pendant qu'elle se mettait en marche, Binos disait entre ses dents « Si je comprends ce que tout cela signifie, je veux bien qu'on me pique le nez avec l'épingle que j'ai confiée à Piedouche. » Tu comprendras plus tard. Fais-moi la grâce d'aller me chercher un fiacre. Eh bien, et celui que tu as gardé? Tiens, le père Pigache et le notaire font monter la grosse femme dedans et ils y montent après elle. Il n'y aurait pas de place pour nous. Allez, fichtre, non, il n'y en aurait pas. Voilà maintenant les deux amis de Pigache qui partent par le même train. L'un dans l'intérieur et l'autre sur le siège. Mais où diable vont-ils? Tu le verras tout à l'heure, car nous allons les suivre. Chapitre 11. Ce jour-là, les habitants de la rue de la Sourdière, qui flânaient sur le pas de leur porte, eurent un spectacle auquel ils n'étaient pas accoutumés. Deux fiacres qui se suivaient de près s'arrêtèrent au coin de la rue Combouste, où ils étaient arrivés par la rue Saint-Roch et se rangèrent à la file contre les maisons. Du premier descendirent quatre hommes et une grosse femme qui se séparèrent aussitôt en trois groupes. Au même moment, deux autres hommes sortirent de la seconde voiture et se dirigèrent à petits pas vers le marché Saint-Honoré. La femme entra dans la rue de la Sourdière. À 10 pas derrière elle marchait un petit vieillard coiffé d'un chapeau tromblon. Un peu plus en arrière venaient deux grands diables d'assez mauvaise mine qui s'avançaient à la file et à pas comptés. Le cinquième voyageur du premier convoi prit le même chemin que les deux qui avaient tourné du côté du marché. Celui-là était habillé de noir et cravaté de blanc comme un ordonnateur des pompes funèbres. Tous ces gens, qui n'avaient pas l'air de se connaître entre eux, faisaient cependant partie de la même expédition. Un observateur l'aurait deviné tout de suite. Mais les petits marchands qui les virent passer n'y entendirent pas malice, et personne ne se mit aux fenêtres pour les regarder. La femme entra dans une cour qui précédait une assez belle maison et s'aboucha avec le concierge. Le petit vieillard qui la suivait arriva avant que le colloque fût fini, et comme ils demandaient tous les deux la même personne, le portier le fit à tous deux la même réponse. « Oh, au premier, la porte à gauche, mais je ne sais pas si madame reçoit, et elle va partir en voyage. » Ils montèrent l'escalier ensemble, sans échanger une parole. Quand ils arrivèrent sur le palier, ce fut autre chose. « Vous avez bien compris ce que vous avez à dire, n'est-ce pas ?» demanda le vieillard en baissant la voix. « Vous êtes la sœur de ma femme de ménage. Je suis sourd et j'ai tout fait pour me guérir de ma surdité. Vous m'avez parlé de madame Stella, qui donne des conseils sur toutes les maladies, et vous m'amenez chez elle pour qu'elle me prescrive un traitement. « Connu, connu !» répondit la grosse femme. « Et quand vous m'aurez annoncé, vous me laisserez parler. »« Ça me va, quand je ne saurais quoi dire. »« Voici la porte, » reprit le bonhomme en montrant la plaque où brillait le nom de l'élève de mademoiselle Lenormand. « Sonnez, ma bonne !» Et pendant que sa commère tirait le bouton de cuivre, il aperçut une autre inscription qui faisait vis-à-vis de celle-là. Bon, murmura-t-il, il y a un agent d'affaires en face. Oh, c'est l'associé, je le parierais. C'est dans l'idée que je ferai coup double. On n'ouvre pas, dit la femme. Mais sonnez plus fort. Elle recommença, mais sans plus de succès. Les habitués doivent avoir une manière de se faire reconnaître. « Dit tout bas le vieux, il s'agirait de la trouver, c'est pas facile. »« Carillonnez toujours, nous allons voir. » Le carillon ne produisit aucun effet. Rien ne bougea dans l'appartement de la vineresse, mais le bonhomme, qui n'était sourd qu'en chambre, crut entendre qu'on marchait dans l'appartement de l'agent d'affaires et s'en rapprocha tout doucement pour mieux écouter. Il allait coller son oreille contre la porte quand cette porte s'ouvrit. « Tiens !» s'écria-t-il. « Monsieur Piedouche !» ministre, en même temps, il avançait la tête et le bras par l'entrebâillement. « Oh, comment, c'est vous, père Pigache ?» dit l'homme qui avait ouvert. « Oh, je suis joliment content de vous voir, car j'ai un tas de choses à vous conter. Il s'en passe de drôle au grand boc depuis que vous n'y venez plus, et je m'attendais pas à vous rencontrer ici. J'étais monté avec ma bonne pour consulter madame Stella. Elle n'y est pas !» cria Pédouche en se faisant un porte-voix de ses deux mains. « Oh, j'en suis bien fâché. On m'a dit qu'elle me donnerait un remède qui me débarrasserait de mon infirmité. Ben, je reviendrai une autre fois, mais puisque vous voilà, je voudrais bien causer avec vous. Je n'ai pas le temps. Oh, ce sera pas long, vous pouvez bien me donner 5 minutes. Qu'est-ce que vous avez à me dire ?» Des choses qui vous intéresseront. Figurez-vous que, depuis 2 jours, l'établissement du père Poivreau est plein de mouchards. Piedouche tenait toujours la porte entrebâillée et ne paraissait pas disposé à livrer passage au père Pigache. Il le regardait d'un air soupçonneux et il regardait aussi la grosse marchande d'oranges qui assistait de loin à leur colloque. Mais au mot de « mouchard », il changea d'attitude. « Qu'est-ce qui se passe donc au grand boc ? » demanda-t-il en criant à tue-tête pour ne pas être obligé de répéter la question. « Ben, il paraît qu'on cherche un individu qui se trouve mêlé à une affaire d'assassinat et qui fréquente l'estaminet sous un faux nom. » Oh, je peux vous donner tous les détails, mais ça vous gêne peut-être de me recevoir parce que vous n'êtes pas chez vous, » dit Pigache en montrant la plaque où était inscrit le nom de Blanchelaine. Oh, je suis chez un de mes amis qui est en course et qui m'a prié de le remplacer pour 1 heure. Oh, alors je ne vous dérange pas, nous avons le temps de causer. Je vais dire à ma bonne d'aller m'attendre dans la rue. » Cette dernière proposition décida Piedouche. Il ne se souciait pas d'introduire dans son domicile une femme qu'il ne connaissait pas, mais le sourd ne lui inspirait aucune défiance et jugeait utile de l'interroger à fond sur les agissements de la police au café du père Poivreau. « Nous ne pouvons pas parler ici, » reprit Pigache. « Mon infirmité vous oblige à hurler et nous finirions par attirer les voisins. Va-t'en, Virginie, si ça t'ennuie de rester en bas, tu peux aller t'asseoir aux Tuileries devant le grand bassin, je t'y rejoindrai tout à l'heure. » Il savait bien que Virginie comprenait à demi-mot et qu'elle n'irait pas si loin. La brave marchande d'oranges lui obéissait aveuglément depuis qu'elle savait à qui elle avait affaire. Elle ne demanda pas d'autre explication et elle descendit l'escalier plus vite qu'elle ne l'avait monté. « Entrez, mon vieux, » dit Piedouche en s'effaçant. Pigache passa. Piedouche ferma la porte au verrou et le conduisit dans son cabinet où se promenait une femme que Freneuse aurait reconnue sans peine s'il eût été là, car elle était vêtue exactement comme le soir de la représentation des Chevaliers du Brouillard. Elle fronça le sourcil en voyant le bonhomme que son complice amenait, et ses yeux demandèrent qui c'était. « Oh, ne t'inquiète pas, » lui dit Piedouche à demi-voix, « j'ai besoin de tirer les verres du nez à cet imbécile. » Et si je m'aperçois que c'est un espion, il sortira pas d'ici vivant. » En parlant ainsi, Piedouche regardait à la dérobée le bon Pigache qui ne broncha point. La physionomie du vieillard resta souriante et niaise comme d'habitude. « Bon, je suis fixé, » reprit le soi-disant Blanchelaine. J'avais peur qu'il fît semblant d'être sourd. Maintenant, je suis sûr qu'il l'est. Nous pouvons causer comme s'il n'était pas là. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que cet homme-là? Et que vient-il faire ici? Oh, c'est un crétin qui fréquente le grand boc, et c'est pas chez moi qu'il venait, et sa bonne l'avait amené pour le consulter sur sa surdité. Ah, alors, c'est lui qui sonnait. Non, non, c'était sa bonne, et quand j'ai entrebâillé ma porte, je me suis trouvé bec à bec avec lui. Bon, mais pourquoi l'as-tu fait entrer ? Parce qu'il m'a dit qu'on a vu des agents de la sûreté dans l'estaminet du père Poivreau, et que je veux savoir de quoi il retourne. Oh, expédie-le vite, alors, parce que je veux pas laisser la petite seule. Elle parle de partir ce soir, et pour la calmer, j'étais obligé de lui promettre que nous irions chercher la malle de sa sœur chez Sophie Cornu. Pendant cet échange d'explications, Pigache était resté en contemplation devant la dame et se préparait à la saluer. Madame est la femme de l'ami qui m'a prié de garder son bureau, lui cria Pédouche. Tous mes compliments à monsieur votre ami, dit le bonhomme en s'inclinant jusqu'à terre. C'est bon, asseyez-vous et contez-moi votre histoire. Alors, la police cherche un assassin chez Poivreau. Oui, j'ai dans l'idée qu'elle ne passera pas, car il n'y a plus personne, il se méfie, voyez-vous, et il remettra plus les pieds au grand boc. Mais enfin, qui a-t-il assassiné ? Il y a 8 jours que les journaux n'ont pas parlé d'un crime. Oh, on dit que c'est une vieille affaire, une jeune fille, qu'on aurait tuée dans un omnibus. Cette réponse, faite du ton le plus naturel et le plus indifférent, troubla considérablement la devineresse et son acolyte. Ils ne s'attendaient guère à entendre ce vieil ahuri leur parler de la mort de Bianca Astrodi et leur en parler comme si tout le monde savait que Bianca était morte assassinée. Et il n'en fallait pas tant pour les mettre en défiance. Ils échangèrent un regard et la femme fit mine de s'en aller. Mais comment savez-vous ça ? Dit Piedouche à l'ancien droguiste sans forcer le diapason de sa voix. Vous me demandez le nom de l'assassin qu'on cherche ? Répondit Pigache en se faisant un cornet acoustique avec sa main. Malheureusement, je ne connais pas plus que vous. Les pratiques du père Poivreau ne valent pas cher et les soupçons se portent un peu sur tout le monde. Surtout sur ceux qu'on ne voit plus à l'estaminet. Mais je puis vous nommer l'animal qui est cause de tout ça. C'est ce méchant rapin qui faisait votre partie de piquet, là, le nommé Binos. Il paraît qu'il est allé déposer une plainte à la préfecture de police. Ça ne m'étonne pas, grommela Biedouche en s'adressant à sa compagne. Le vieux dit probablement la vérité. Et je suis de plus en plus certain qu'il est sourd, mais il n'a pas répondu à ma question, ou du moins il a répondu tout de travers. Il n'a pas entendu, il n'entend pas un mot de ce que nous disons. Je le crois, murmura la femme, mais ça n'empêche pas que c'est très grave ce qu'il vient de nous apprendre. J'ai dans l'idée que ce Binos a dû te dénoncer. T'as eu joliment tort de causer avec lui de l'affaire. Ben, il le fallait bien, pour avoir l'épingle et la lettre. Mais je ne serais pas étonné que, ne me revoyant plus venir à l'estaminet, il ait fini par me soupçonner, sans compter que son amie Freudeuse a dû le pousser. Il nous a vus, ce Freudeuse. Et si par malheur le Paulet lui donnait l'adresse de M. Blanchelaine, agent d'affaires, nous serions dans de bien mauvais draps. C'est-à-dire que nous irions coucher en prison le jour même. Oh, si tu m'en crois, nous n'en courrons pas la chance. J'ai bien envie de partir ce soir avec Pia. Mais tu viens de me dire qu'elle veut absolument la malle de sa sœur. Oh, si ce n'était que ça, j'irais la chercher sans elle, cette malle. Mais elle veut aussi aller encore une fois au cimetière de Saint-Ouen. Et après, elle consentira à partir? Elle ne demande que ça. Eh bien, conduis-la chez Sophie Cornu, conduis-la à Saint-Ouen. Il faut pas 3 heures pour faire le voyage. Tu auras encore tout le temps de te préparer à prendre l'express de 8 heures. Moins tu resteras à Paris avec elle, et mieux ça vaudra, car les peintres sauront que la petite n'est plus chez Lorenzo, et ils sont capables de se mettre en campagne pour la retrouver. Nous sommes à la merci d'un hasard, le hasard d'une rencontre. J'aurais soin de baisser les stores du fiacre, et d'ailleurs, on ne la cherche pas encore. Non, mais on la cherchera peut-être demain. Donc, file ce soir sur Marseille. J'irai vous y rejoindre après-demain. Je crois que tu as raison. Et pour ne pas perdre de temps, je vais envoyer la petite négresse me chercher une voiture. Très bien, attends seulement que je me sois débarrassé de cette vieille bête qui vient de nous rendre un fameux service. Et se tournant vers le bonhomme qui était resté debout, il lui cria le plus haut qu'il put: Excusez-moi, père Bigache, madame me racontait qu'on lui avait justement parlé de cette histoire de l'omnibus. Moi, je crois qu'il n'y a pas tant tout ça de quoi fouetter un chat. Je tiens à rassurer ce pauvre diable de Poivreau. Voulez-vous aller les mettre au grand bac? J'y serai dans 1 heure. Avec grand plaisir, répondit le sourd. Vous êtes comme moi, vous n'abandonnez pas vos connaissances parce qu'elles sont dans la peine. Mais je veux pas vous déranger plus longtemps, et je vous présente mes salutations ainsi que mes très humbles hommages à madame. Je reviendrai demain consulter votre voisine, madame Stella, ajouta Pigache en se retirant à reculons. Piedouche le reconduisit jusque sur le palier, le congédia avec une vigoureuse poignée de main et se barricada dans son appartement. Dès qu'il eut refermé sa porte, Pigache se redressa, descendit 4 à 4 les marches de l'escalier, traversa vivement la cour et se mit à courir à toutes jambes vers la rue Gomboust où les deux fiacres attendaient. Chapitre 12 et dernier. En sa qualité de sorcière, Stella était toujours bien servie. Elle n'attendit pas 10 minutes le retour de la noire messagère qu'elle avait envoyée chercher un fiacre. La station la plus voisine n'était pourtant pas tout près, mais la petite négresse avait eu la chance de rencontrer une voiture de la compagnie qui s'en revenait à vide et qui suivait au pas la paisible rue de la Sourdière. Pia était toujours prête à sortir. N'ayant qu'un seul et unique costume, elle ne perdait pas de temps à s'habiller, et quand la dame lui avait proposé d'aller ce jour-là rue des Abbesses et au cimetière de Saint-Ouen, afin de pouvoir prendre le train du soir, elle ne s'était pas fait prier, car elle ne demandait pas autre chose. Peu lui importait de partir seule ou en compagnie, pourvu qu'elle quittât Paris le plus tôt possible. Ce qu'elle craignait, c'était de rencontrer Paul Freneuse, parce qu'elle avait peur de se laisser toucher s'il la priait de rester. Stella, qui avait bien d'autres craintes, eut soin de passer devant quand elles arrivèrent à la porte cochère et de donner un coup d'œil rapide des deux côtés de la rue. Elle n'y vit rien de suspect. Le fiacre était rangé contre le trottoir, et le cocher avait quitté son siège pour causer avec un homme qui devait être un de ses camarades en congé temporaire, car il portait un chapeau de toile cirée et un gilet rouge sous sa blouse. C'est vous qui avez ramené ma servante? Demanda-t-elle, une négrillonne d'une douzaine d'années. Oui, madame, et si madame veut monter? Répondit le cocher en ouvrant la portière. Je vous prends à l'heure, et si vous marchez bien, vous aurez un bon pourboire. Oh, madame sera contente, nous allons. Rue des Abbesses à Montmartre. Vous tournerez à gauche, en haut de la rue des Martyrs. Je vous arrêterai quand nous serons devant la maison. Bien, madame, seulement, si madame le permettait, je prendrai à côté de moi mon ami que voilà et qui reste justement place de la mairie à 2 pas de l'endroit où va madame. Au fait, comme vous voudrez, répondit la soi-disant élève de mademoiselle de Normand. Elle était pressée et elle ne pensa qu'à faire monter Pia, à monter après elle et à baisser les stores. Vous ne tenez pas à être vue, n'est-ce pas, ma chère enfant? Lui demanda-t-elle. Ben, vous savez bien que non, murmura la petite. La précaution que je prends est indispensable car nous allons être forcés de passer dans le quartier des peintres. Il n'y a pas d'autre chemin pour aller chez Sophie. Qu'importe, je suis bien caché et d'ailleurs, personne ne pense plus à moi là-haut. Stella avait de fortes raisons pour croire le contraire, mais elle les garda pour elle et le voyage fut silencieux. Pia était morne et abattue. Elle se laissait mener comme un condamné convoiture vers le lieu du supplice. Sa conductrice n'avait garde d'essayer de la tirer de cette torpeur qui la dispensait de répondre à des questions embarrassantes. Elle se disait, ben, tout va bien, la cornue est prévenue de notre visite, elle a dû descendre dans l'allée et chez elle nous n'en aurons pas pour 5 minutes. Au cimetière, nous aurions bien du mal si nous rencontrions des gens de connaissance. Ce soir, à 8 heures, nous roulerons vers Marseille. Le fiacre allait comme le vent et la devineresse se félicitait d'être si bien tombée. Il monta au trot la côte pavée qui aboutit au boulevard d'extérieur et quand il l'eut franchi, il se mit à filer d'un train inusité. Stella s'était si bien abritée contre les regards des passants qu'elle ne s'aperçut pas tout d'abord de la direction que suivait le cocher. Mais elle n'eut qu'à soulever le coin d'un store pour reconnaître qu'il se trompait et qu'au lieu de grimper tout droit vers la rue des Abbesses, il avait tourné à gauche. Elle frappa aux glaces de devant pour l'avertir de son erreur. Elle sonna. Rien n'y fit. Ce cocher devait être sourd comme le père Pigache, car il ne s'arrêta que sur la place Pigalle. Stella, stupéfaite et furieuse, perdit toute mesure et abaissa brusquement une des glaces afin de saisir par le pan de sa redingote le cocher qui lui jouait ce mauvais tour. Mais, sur le trottoir en hémicycle contre lequel ce fiacre indocile s'était arrêté, elle vit des gens groupés qui avaient l'air de l'attendre. Et elle comprit, car elle reconnut Freneuse et Binos. Alors elle ne songea plus qu'à fuir, et naturellement, elle chercha à se sauver du côté de la place. Elle ouvrit la portière, elle sauta, et elle tomba dans les bras de l'homme en blouse, qui était descendu de son siège, tout exprès pour la recevoir. Elle essaya de lui échapper, mais il l'enleva comme une plume. Il l'emporta sous le vestibule de la grande maison des peintres et il la déposa dans la loge du portier qui était occupée par 2 sergents de ville. Ce fut si vite fait qu'elle eut à peine le temps de crier et que les gens qui passaient crurent qu'il s'agissait d'une femme tombée en syncope. Pia, absorbée dans de tristes rêveries, n'avait pour ainsi dire rien vu. Mais presque au même instant, l'autre portière s'ouvrit et Paul Freneuse se montra. Ah! murmura-t-elle en se rejetant en arrière. Cette femme m'a trompée. C'était donc chez vous qu'elle m'amenait. Laissez-moi! Cette femme? S'écria Freneuse. Mais c'est elle qui a assassiné ta sœur! Et elle t'aurait tué comme elle a tué Bianca, si nous n'avions pas réussi à te tirer de ses griffes. Je ne peux t'expliquer ici. Binoz va te conduire à l'atelier et je t'y rejoindrai dans un instant. Il faut d'abord que je confonde cette coquine. À l'atelier, jamais, dit Pia d'une voix étouffée. Mais pourquoi? Que t'ai-je donc fait? Bon, je devine, s'écria Binoz, qui s'était approché. Elle a peur de rencontrer là-haut, mademoiselle Paulet. Eh bien, petite, je te jure que cette blonde n'y remettra plus les pieds, que si son respectable père s'avisait de s'y présenter, je me chargerai de le mettre à la porte, demande plutôt à Freneuse. Oh, moi aussi, je te le jure, reprit Freneuse. Et ses yeux disaient si bien qu'il ne mentait pas, que Pia, pâle et tremblante, prit la main que Binoz lui offrait pour descendre et se laissa entraîner dans la maison. « À nous deux, maintenant, madame Viedouche, » dit entre ses dents Freneuse. « Ah, la gueuse !» s'écria la marchande d'oranges. « Qu'elle essaie donc un peu de soutenir devant moi qu'elle n'était pas dans l'omnibus. »« Oh, elle n'osera plus nier, » dit le notaire Drujon. « Mais prendra-t-on son complice ?»« Oh, il doit être déjà coffré, » cria l'homme perché sur le siège. « Le patron qui s'est chargé de le faire emballer sera ici dans 10 minutes. Comment trouvez-vous qu'il a mené ça ?»« Merveilleusement. L'idée de vous déguiser en cocher, vous et votre camarade, est impayable. » Les vrais faisaient une drôle de tête quand il leur a commandé de changer de pelure avec nous, mais la sorcière a bien coupé dans le pont. Freneuse et Virginie Pilon laissèrent notre Drujon chanter les louanges du faux Pigache, qui n'était qu'un agent supérieur de la police-sûreté, et coururent à la loge où Stella était gardée à vue. Elle avait l'air d'une bête fauve prise au piège, et quand elle vit paraître les deux témoins qu'elle ne pouvait pas récuser, un éclair de colère passa dans ses yeux, mais elle ne bougea pas, et elle dédaigna de répondre aux questions de Freneuse, qui se lassa bientôt de l'interroger. Il venait d'aller retrouver Pia quand Pigache arriva. L'habile homme avait terminé sa besogne rue de la Sourdière. Auguste Blanchelaine, arrêté à domicile par un commissaire assisté de 4 agents, était en route pour le dépôt de la préfecture. L'entrée de Pigache dans la loge amena un coup de théâtre. Celle-là comprit qu'elle était perdue. Le faux sourd avait entendu sa conversation avec son associé et il savait à quoi s'en tenir sur leur culpabilité à tous les deux. Où est l'épingle qui vous a servi à tuer Bianca Strodi? Lui demanda-t-il sans préambule. Vous devez l'avoir sur vous. Et si vous ne me la remettez pas, madame, qui était à côté de vous dans l'omnibus, va vous fouiller. C'est inutile, dit d'une voix rauque l'affreuse créature. Je vais vous la donner. La voici. Elle la tenait cachée dans son gant depuis qu'on l'avait traînée dans la loge du concierge. Elle ferma vivement la main et elle tomba foudroyée. La pointe meurtrière avait pénétré dans les chairs du poignet. Bianca était vengée. Et l'épargne de la besogne à la cour d'assises, dit philosophiquement Pigache, pendant que les sergents de ville se précipitaient pour relever la morte. Je parierais que cette canaille de Pied-Douche n'aura pas le courage de faire comme elle. Il est vrai qu'il a des chances de s'en tirer. Maintenant que sa douce compagne a passé l'arme à gauche, la complicité sera difficile à prouver. Je vais toujours serrer l'épingle. Faute de cette pièce à conviction, jamais les jurés ne le condamneraient. » Il la ramassa sur le plancher de la loge et il l'enveloppa soigneusement dans un journal. La marchande d'orange s'était sauvée en voyant tomber la sorcière. À l'entrée du corridor, elle se heurta à Maître Drujon qui causait à un personnage qu'on attendait guère. D'un fiacre, conduit celui-là par un vrai cocher, étaient descendus M. et Mlle Paulet, et le notaire, qui se promenait sur le trottoir, n'avait pas été peu surpris de les voir, car une heure auparavant, M. Paulet avait refusé de lui donner l'adresse de l'agent d'affaires, et il s'était quitté très froidement. Or, Paulet savait que Freneuse agissait de concert avec Maître Drujon. Alors que venait-il donc faire dans l'atelier du peintre ? Je sais le nom ! Cria-t-il en descendant de voiture. Il s'appelle Blanchelet et il demeure. Rue de la Sourdière, vous ne m'apprenez rien, interrompit le notaire. Il est arrêté. Arrêté ? Ah, mon Dieu ! C'était donc vrai ? Il a trempé dans un crime ? Ah, vous êtes témoin que j'ai apporté son adresse à M. Freneuse dès que je l'ai vu. Vous n'étiez pas parti depuis 10 minutes que je l'ai retrouvé dans mes papiers. M. Paulet n'était pas rassuré du tout, car il pensait aux lettres et à l'engagement signé de lui qu'on avait dû saisir chez Blanchelet. Il s'était ravisé et il prenait ses précautions pour qu'on ne le soupçonnât point d'avoir commandé le meurtre à ce coquin. Et en venant voir Freneuse, il avait eu soin d'amener sa fille pour donner un prétexte à sa visite. « Montons, mon père, » dit Mademoiselle Marguerite, plus belle et plus hautaine que jamais. « Monsieur Freneuse nous expliquera ce qui se passe. » Je vous préviens qu'il n'est pas seul, murmura Maître Drujon. Ah, eh bien, raison de plus, répliqua-t-elle. Nous serons complètement renseignés. Elle avait deviné que l'Italienne était là, et elle n'était pas fille à reculer. Elle entra dans la maison, et M. Paulet la suivit. Ne regardez pas dans la loge du portier! Leur cria Virginie Pilon. Il n'avait garde, le père était aussi pressé que la fille d'arriver à l'atelier du peintre. Ils n'eurent pas besoin de sonner, la porte était ouverte et ils purent contempler un tableau tout à fait imprévu. Pia était assise à la place où Mademoiselle Paulet l'avait vue le jour où elle l'avait chassée, mais Pia ne pleurait plus. Pia écoutait avec ravissement les serments de Paul Freneuse à jouer devant elle. Pia abandonnait ses mains à l'artiste qui les couvrait de baisers. Et Binos, toujours facétieux, faisait le geste de les bénir. Il fut le premier qui aperçut M. Paulet et sa fille arrêtés sur le seuil et il eut l'impudence de leur crier « N'est-ce pas que c'est touchant ? Daphnis et Chloé, quoi ! » Freneuse fut debout en un instant et vint droit à eux. Pia attendait pâle et anxieuse. C'était son sort qui allait se décider. « Venez, mon père, » dit sèchement l'orgueilleuse Marguerite, « ma place n'est pas ici. » puisque monsieur y reçoit une créature qui nous a volé l'héritage de votre frère. Vous insultez une enfant qui vaut mieux que vous, répliqua Freneuse, emportée par la colère. Sortez ! Et vous, monsieur, reprit-il en s'adressant à monsieur Paulet, apprenez que mademoiselle Astrodi renonce à l'héritage que vous convoitez. Elle ne veut pas de la fortune d'un homme qui a abandonné sa mère. Je souhaite que la justice ne vous demande pas compte de vos honteuses accointances avec un scélérat. J'espère bien ne jamais vous revoir. Le père et la fille courbaient la tête. Pia aussi était vengée. 3 mois se sont écoulés. Blanchelaine, dit Pied-Douche, va passer aux prochaines assises. Il espère obtenir une circonstance atténuante. Pigache a eu de l'avancement. Cette affaire l'a tiré de pair. Il sera peut-être un jour chef de la sûreté. Monsieur de Rue-Étrujon est retourné à son notariat, comblé de bénédictions par Freneuse et Pia, qui sont partis pour l'Italie. Ils se marieront à Subiaco, ils n'auront pas besoin de la fortune de Monsieur Francis Boyer pour être heureux. Freneuse a manqué son exposition cette année, mais le bonheur qui l'attend valait bien ce sacrifice. Binoche se console en buvant des bocs de l'absence de ses amis. Monsieur Paulet n'a pas été inquiété, et sa fille aura 500 000 de plus. Mais elle ne trouve pas d'épouseur. Tout se sait à Paris, et le crime de l'omnibus lui a fait du tort.